La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la logique. C'est une journée très officielle, initiée par l'UNESCO. La logique est omniprésente, elle constitue un universel contemporain, mais alors que nous vivons entourés de logique, nous n'en avons encore que très peu conscience. Nous faisons de la logique souvent sans le savoir. C'est ainsi dans le but d'attirer davantage l'attention sur l'importance de cette discipline. Dans le développement de la connaissance que l'UNESCO a proclamé le 15 janvier, journée mondiale de la logique. L'aptitude à la réflexion est l'apanage principal de l'espèce humaine. Dans différentes cultures, la définition de l'humanité fait appel à des concepts tels que la conscience, la connaissance et la raison. Dans la tradition occidentale classique, on définit souvent l'être humain comme un animal rationnel ou logique. La logique, en tant que recherche sur les principes du raisonnement, a été étudiée par de nombreuses civilisations au cours de l'histoire et depuis ses premières formulations, elle a joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie et des sciences. La célébration annuelle d'une journée mondiale de la logique a pour objet de favoriser la coopération internationale et promouvoir le développement de la logique dans la recherche et dans l'enseignement, de soutenir les activités des associations, universités et institutions s'intéressant à la logique et d'aider le public à mieux comprendre la logique et ses implications pour la science, la technologie et l'innovation. Et maintenant, c'est le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous recevons Simon Elienne, qui est le président de l'AGEP. Il sera interviewé par Vladimir. Le Flash Info sera présenté par Solène. Anaïs nous fera une chronique actu. Le Zoom sera présenté par Najwa Ferréol, qui est la coordinatrice d'Invinimité dans le cinéma, sera reçue par Alice. Excusez-moi. Gauthier nous fera une chronique libre.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Et nous recevons donc Simon Elienne, qui est le président de l'AGEP, et c'est Vladimir qui va l'interviewer.
Bonsoir, bonsoir Simon Elien, et bonsoir à toutes et à tous. Donc tu es, comme on l'a dit, président de l'AGEP, l'Association Générale des Étudiantes et des Étudiants de Paris. Et on va parler du coup pendant cette interview, un peu en deux parties, du financement des universités publiques françaises, de la situation difficile qu'elles traversent aujourd'hui, et des assises du financement des universités qui se déroulent pendant ce premier trimestre 2026. Simon, merci d'être avec nous.
Avec plaisir, bonsoir.
Est-ce que tu peux rapidement présenter du coup l'AGEP, ce que c'est, ce que vous faites, vos actions?
Et donc l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants et Étudiantes de Paris, c'est une fédération étudiante. On représente 45 assos étudiants, donc des BDE dans des filières, des assos thématiques sur la solidarité, sur la transition écologique, et 150 élus étudiants, on est à partisans, et notre but c'est d'articuler du projet concret pour les étudiants comme une épicerie sociale et solidaire qui s'appelle l'Agorae, et du plaidoyer pour défendre à court terme et à long terme, on espère, les conditions de vie et l'étude des jeunes.
D'accord, c'est un vaste programme. Et donc du coup, on va commencer un peu dans le dur du sujet. Je vais me permettre de commencer par une citation de Christine Naud-Leduc, qui est la présidente de l'université parisien Panthéon-Sorbonne, qui nous dit « Il y a 2 ans, j'avais dit à l'université, on est à l'os et on a attaqué l'os. Quand la moelle est atteinte, c'est terminé, c'est un vrai cri d'alarme. » Et ça, elle n'est pas la seule à l'avoir dit. Pendant tout le dernier semestre 2025, de nombreux présidentes et présidentes d'universités se sont levées pour dire la situation critique à laquelle font face les universités publiques aujourd'hui. Et à l'AGEP, donc du coup ton association, vous avez publié un communiqué le 17 décembre qui pointe ces déficits importants dans les universités parisiennes, notamment la Sorbonne Université a voté un budget déficitaire de 25 millions d'euros, Paris Cité a voté un budget déficitaire aussi de 9 millions d'euros, et il y a plein de difficultés comme ça. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer la situation économique très compliquée des universités publiques en France aujourd'hui?
Alors on a un problème qui est structurel et qui est national et qui explique qu'on a une très grande majorité d'universités qui sont en situation budgétaire grave, et depuis plusieurs années, c'est que l'État qui finançait et qui finance toujours la mission de service public que sont l'enseignement supérieur, investit de moins en moins proportionnellement aux dépenses totales de l'université, et donc ce qu'on appelle la subvention pour charge de service public, la grosse enveloppe budgétaire qu'amène l'État sur la table, ne finance plus l'intégralité des besoins de fonctionnement en propre d'une université, et donc l'université a moins d'argent pour fonctionner tout simplement.
Et donc du coup, ce financement-là, en tout cas ces problèmes économiques, ils s'expliquent d'un côté par à la fois les augmentations très importantes des coûts fixes, notamment pour les universités. On a vu avec l'explosion des coûts énergétiques, par exemple, ça avait joué un très grand rôle. Il y avait aussi les coûts des matériels, notamment pour les labos scientifiques, notamment CY Université et ses 26 000 étudiants qui nous disent que ça a augmenté de 30% au niveau des tarifs. Et les universités essayent de faire des efforts budgétaires par rapport à tout ça, notamment avec des exemples d'augmentation de frais de scolarité par rapport aux étudiants étrangers, etc. Malgré ça, ça ne marche pas. Comment est-ce que tu analyses du coup cette situation où le gouvernement se désengage? Pourquoi est-ce qu'il se désengage par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'il finance moins? Ou alors est-ce qu'il finance plus mais les coûts augmentent plus que ce qu'il ne finance?
Alors il y a déjà un changement dans le financement que l'État fait des universités. Il estime financer toujours autant les universités, mais il y a des modes de financement différents. Cette enveloppe qu'on appelait la subvention en charge de service public est maintenant complétée par un appel à projet et des sommes, des enveloppes budgétaires qui sont compétitives entre différentes universités. Donc la nature du financement a changé et favorise plutôt les gros poissons que les petites universités, et c'est un problème. Et pour revenir sur les conséquences dont vous parliez et les résolutions données par les universités, ces solutions d'urgence qui en fait sont défavorables aux étudiants, contre lesquels on s'oppose de façon unanime, les corps enseignants aussi. Par exemple, ce qui a été fait à l'université Panthéon-Sorbonne de rétablissement des frais différenciés qui sont permis depuis 2018 en France par un plan qui s'appelle le plan Bienvenue en France, c'est concrètement faire en sorte que les étudiants extra-communautaires payent 16 fois plus cher leur diplôme de licence.
Oui, avec
master
des tarifs qui peuvent monter à 3 500, je crois, à l'année, c'est ça, quelque chose comme ça.
Hein. Oui, c'est ça, donc 3 941 € pour un master, et donc c'est tout simplement une rupture d'un des principes de l'universalité de l'université. C'est compris dans le mot même. Un étudiant extra-communautaire n'a plus les mêmes chances d'accéder à des études en France qu'un autre.
D'accord. Et j'aimerais justement revenir sur ce point-là que je trouve très intéressant, sur le fait que les modalités de financement du gouvernement ont changé. C'est-à-dire qu'avant, ils donnaient, on va dire, une enveloppe générale à toutes les universités, peu importe un peu les projets. Et donc, du coup, comme on peut le retrouver d'ailleurs dans plein de dynamiques de subventions publiques, plutôt que d'allouer des subventions en faisant confiance, entre guillemets, à des projets, on va glisser ça en faisant de plus en plus de subventions aux appels à projets, en mettant les acteurs un peu en concurrence. Et donc ça, c'est une logique qui s'applique aussi aux universités depuis de nombreuses années.
Alors tout à fait, il a toujours existé cette subvention en charge de service public, elle repose sur une contractualisation entre l'État et l'université qui a toujours existé sur 5 ans, ce qu'on appelle un contrat quinquennal, et qui permettait justement de financer à minima les frais de fonctionnement d'une université. On a rajouté deux types de financement, donc les appels à projets, et c'est très simple de comprendre qu'un appel à projet, c'est une somme d'argent finie qui ne peut pas satisfaire tous les acteurs universitaires sur une table, et donc il y aura forcément des lésés, mais on a aussi commencé à changer la subvention en charge de service public, donc l'enveloppe même de base, par ce qu'on appelle des comps, donc des contrats objectifs moyens performants, et qui cette fois conditionne l'octroi de subventions par l'État par des indicateurs de performance. Et donc on a rendu l'enseignement supérieur dans une logique de performance et de rentabilité en quelque sorte, et c'est vraiment inquiétant.
D'accord, et c'est quoi ces indicateurs de performance? C'est par exemple le nombre d'étudiants qui trouvent un emploi après l'université? Comment ça se définit du coup ces indicateurs de performance?
Ça peut complètement être des indicateurs de performance sur l'orientation, sur la réussite, sur la qualité de la vie étudiante qui sera proposée, sur l'offre de formation qui sera proposée. Ça peut être très large. Une chose est sûre, c'est que ça donne aussi à l'État le moyen de faire infuser ses propres politiques publiques et son idéologie publique dans les universités. Et donc c'est aussi une rupture du principe historique et universel, l'autonomie des universités, de la façon dont elle gère son budget et ses priorités pédagogiques.
Ah oui, d'accord. Donc on retrouve ça, oui, dans plein de manières dont l'État notamment s'est approprié le budget de la sécurité sociale, par exemple, qui était un budget qui était vraiment à part et qui était géré par un peu en autonomie. Et donc là, du coup, l'État se sert, selon ton point de vue, se sert du coup de ses subventions pour influencer un peu sa politique vis-à-vis de l'enseignement, et comme on peut le voir, une politique qui est plutôt néolibérale ou en tout cas depuis de nombreuses années. C'est un peu ça que tu analyses, quoi.
Totalement. Et ça entraîne des conséquences pour les filières moins rentables ou qui permettent moins de s'insérer dans le monde socioprofessionnel, et on sent que ces politiques, elles traduisent souvent des baisses de capacité massives dans les filières de LSHS, donc tout ce qui sera lettres, sciences humaines, société, littérature, et donc ça traduit aussi une logique et une envie de rentabilité sur les formations qu'on propose aux étudiants.
On aura l'occasion de revenir en deuxième partie d'interview sur ces deux visions, on va dire, de l'enseignement public qui se font face, mais du coup, pour revenir un peu sur ces problèmes budgétaires auxquels font face les universités publiques, quel est, selon toi, l'impact réelle de cette situation économique difficile sur les étudiantes, sur les étudiants, sur leur formation au quotidien, toi qui les accompagnes tous les jours.
Alors ça, il y a plein de conséquences possibles, on peut en décliner quelques-unes. La plus grave, ça reste une fermeture des places. À titre d'exemple, c'est un exemple qui est très simple à comprendre et qui est vraiment grave à Paris. L'année dernière, on a fermé un quart des places dans l'école de psychométricité de la Sorbonne Université. Cette école, c'est la seule école publique de psychométricité d'Île-de-France, et donc sinon c'est 11 000 euros l'année. Donc c'était la seule alternative à 11 000 euros une année scolaire, c'est immense pour tout étudiant. Et cette fermeture, elle n'intervient pas par choix libre de l'université, mais par contrainte budgétaire, parce que la région, donc l'État directement, ne payait pas ce qu'il devait en termes de coûts de formation à l'université depuis plus de 10 ans. Et donc après 10 ans où l'université a pris à sa charge cette compensation, elle a été obligée de fermer 25% des places pour espérer faire passer un message d'alerte au ministère et aux collectivités publiques. Mais voilà, donc ça peut être vraiment la conséquence la plus grave. Une fermeture de places dans un secteur autant en tension et très concurrencé par le privé qui de fait profite aussi de cet investissement dans l'enseignement supérieur public. On aura aussi une dégradation nette des conditions d'enseignement. Par exemple, quand il n'y a pas de budget, on peut pas recruter de nouveaux maîtres de conférences. Et donc on engage des athées.
Il y a cette notion-là, notamment sur la différence entre les contractuels et on va dire un peu les titulaires, c'est-à-dire que de plus en plus d'universités sont poussées à embaucher des personnes sur des contrats un peu plus courts, qui vont intervenir que pendant certaines périodes pendant l'année. Et ce que disait notamment Gilles Roussel, le président de l'université Gustave Eiffel, il disait que si on diminue la proportion de permanents, c'est indolore pour le mouvement, pour le moment, pour l'étudiant, mais on va recruter des vacataires en plus. Seulement eux, ils n'assurent plus la cohérence du système et ne coordonnent pas, donc du coup, en fait, on a une baisse de qualité globale sur du coup les enseignements. Est-ce que tu partages cette vision ?
On peut complètement partager cette vision et aussi mettre à la place des athères en eux-mêmes, qui sont des post-doctorants, donc des étudiants qui ont connu des conditions précaires sur le doctorat, parce que c'est le cas en France aujourd'hui, et qui connaissent d'autant plus des conditions précaires en sortie en post-doctorat et qui n'ont pas la chance de pouvoir être recrutés en maître de conférence. Donc c'est à la fois une baisse de la qualité de l'offre de formation, c'est une baisse de l'attrait de la recherche en général, parce qu'on ne peut pas être financé à la hauteur de la recherche qu'on veut produire, et c'est une baisse de conditions de vie et de santé mentale aussi pour ces athères.
Oui, bien sûr. Donc il y a de nombreuses conséquences en tout cas par rapport à ces difficultés économiques que rencontrent les universités publiques aujourd'hui. Et est-ce que dans ce contexte où les universités publiques sont autant en difficulté, d'autres établissements avec d'autres modèles économiques s'en sortent mieux ? Tu as évoqué un petit peu le modèle privé, est-ce que tu peux nous en dire deux mots là-dessus ?
Alors ce qui est inquiétant, c'est que l'enseignement public, lui, est de moins en moins compétitif parce que de moins en moins d'armes financières et budgétaires pour pouvoir répondre à l'évolution des formations et à la rénovation des campus et des lieux de vie, parce que c'est un sujet qui est vite atteint. Par exemple, on repousse d'énormes projets immobiliers à Paris du fait des déficits budgétaires publics. À l'inverse, les établissements privés, eux, peuvent être attractifs pour une catégorie de la population qui peut se le permettre, avec des écoles à 16-17 000 euros, dans une logique de rentabilité qui est pleinement assumée.
Ah oui, donc du coup, il y a vraiment une espèce de combat entre ces deux différentes visions dont on reviendra un peu dessus tout à l'heure. Et du coup, cette vision-là, c'est-à-dire qu'on a du coup un déficit, et donc ceux qui rapportent par rapport à ça, ça va être des personnes qui vont plus remplir les critères justement de l'État. Par exemple, les écoles privées vont plus rentrer un peu dans ces critères-là que définit l'État par rapport à l'octroi de subventions publiques, où ils rentrent plus dans un marché de l'emploi, du travail, de le marché du savoir, c'est un peu ça ?
Pas nécessairement, parce que les établissements publics et les établissements privés sont pas du tout soumis pour l'instant aux mêmes critères d'évaluation. Par exemple, il y a plein de critères qu'on prend fort heureusement en compte dans l'évaluation par la HCRS d'un établissement public, comme par exemple la démocratie étudiante, tout bêtement le nombre de faits d'avoir d'enfants étudiants. Les établissements privés, quand ils sont évalués, pour l'instant, ne sont pas évalués sur ce critère-là. Et donc, c'est un exemple très concret pour les étudiants qui peuvent écouter, mais c'est le cas pour plein d'autres critères. Et donc, forcément, les établissements privés ne cherchent pas à avoir autant de subventions publiques parce qu'ils reposent aussi sur un modèle de fonds propres et de frais d'inscription. Mais peuvent aussi en toucher par différentes aides et donc sont moins impactés aussi par cette situation budgétaire.
Ouais, d'accord. Donc c'est une situation qui est clairement difficile. On pense notamment à l'Université de Lille qui a annoncé un déficit de 45 millions d'euros en prenant un peu sur les fonds propres. Donc c'est une situation qui est vraiment très complexe pour les universités et on abordera du coup d'autres sujets sur cette thématique en deuxième partie d'émission.
Eh ben, merci. Donc merci Simon Eliel, merci Vladimir et on fait une petite pause musicale et on écoute Règne, Don't Let Me Go. I'm watching myself drifting away. A vision so dark I cannot stay. I'm reaching out wide, trying to catch myself before I fall. Too little, too late. Night.
let me freeze time before it turns cold. The moments go by and life goes on. The torturous stars are taking every breath. I wish I'd held the love in my heart. It's never ending. Where do we go when we walk on light? Who do we call at the edge of night? Carry me close like the teardrops in your eyes. All I can give you is memories. Carry them with you and I'll never leave. I'll lay my head down, but when I lay my head down, don't let
C'était Règne, Don't Let Me Go sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Simon Elienne de l'Association Générale des Étudiants Fédérales de Paris. Et nous parlons du financement des universités. Et c'est donc Vladimir qui l'interviewe.
Merci beaucoup. Alors du coup, on est toujours avec Simon Elienne du coup pour ce financement. En première partie d'émission, on avait parlé des difficultés financières que rencontraient les universités publiques. Et du coup, en deuxième partie de cette interview-là, on va parler un peu de quelque chose qui s'est lancé, notamment suite à l'appel de nombreux présidentes et présidents d'universités publiques sur leur situation difficile. Du coup, Philippe Baptiste, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, je ne savais pas qu'il y avait espace dedans, mais bon, visiblement, ça fait partie de l'intitulé, et Amélie Montchalin, du coup, qui est ministre de l'Action et des Comptes Publics, ils ont annoncé, du coup, organiser en ce premier semestre, on va dire, enfin trimestre 2026, les assises du financement des universités. Donc, ils ont remis le 8 janvier leur lettre de mission à Jérôme Fournel et Gilles Roussel, du coup, et qui vont organiser un peu tout ça, et qui vont, c'est un rassemblement qui représente différentes universités, des associations étudiantes et aussi du coup l'État. En quoi consistent ces assises du financement des universités et à quoi est-ce qu'elles essaient de répondre justement ?
Alors elles essaient de répondre à la structure globale du financement des universités qui est devenue très complexe, très illisible. Et donc, comme on en a parlé en première partie d'interview, à toutes ces enveloppes différentes, les conditions différentes, pour essayer d'y voir un peu plus clair, trouver une réponse, une solution, avec un point de vigilance qui a directement été annoncé par l'État qu'il fallait garder en tête sa trajectoire de redressement budgétaire. Et donc, certaines mesures à garder aussi sur les perspectives qui pourront en sortir, mais voilà, le but c'est d'organiser des temps d'échange et de remettre tout le monde, tous les actrices de l'université autour de la table pour essayer d'identifier des solutions et au moins une feuille de route, des décisions politiques à terme qui permettront de trouver des solutions à ce problème.
Et du coup, concrètement, ces assises, elles vont rassembler du coup des représentants des universités, mais aussi des représentants étudiants. Donc toi tu n'y seras pas, c'est ce que tu m'as dit, mais du coup il y aura l'association, je pense, nationale en tout cas des étudiants qui y sera aussi pour débattre, et l'État, donc ça sera un peu comme une espèce de grande convention, des grandes assises où tout le monde va débattre en tout cas au niveau de leur priorité, etc. C'est un peu ça l'idée.
C'est tout à fait l'idée. Alors oui, au niveau étudiant associatif, ce sera la FAGE, qui est la première organisation étudiante de France et qui représente 2000 associations étudiantes, 66 fédérations comme la JEP, un peu partout sur le territoire, qui sera là et qui portera des revendications sur le budget et le financement de l'université qu'on a tous voté ensemble pour justement essayer d'aboutir à une solution qui serait pérenne pour les établissements et juste pour avoir de bonnes conditions d'études pour les jeunes.
D'accord. Et donc je me permets de citer un peu le lancement des assises et les textes qui ont été publiés officiellement pour annoncer ce lancement de ces assises du financement des universités. Donc Philippe Baptiste, le ministre dont j'ai parlé, ministre de l'enseignement supérieur, a parlé de renforcer durablement la confiance entre l'État et les universités et éclairer des choix responsables compatibles avec nos ambitions académiques comme avec nos engagements en matière de finances publiques. Donc on a parlé un petit peu, ce communiqué, il y a beaucoup de jargon, on va dire, dedans pour essayer d'arrondir les angles, parce qu'on sent qu'il y a quand même une très grande tension à travers ça. Qu'est-ce que vous, en tout cas dans les assos étudiantes que vous représentez, qu'est-ce que vous attendez de ces assises-là? Qu'est-ce que vous espérez obtenir en tout cas? Parce qu'on sent très bien qu'il y a un rapport de force qui se crée entre les universités, les assos étudiantes et l'État. Qu'est-ce que vous attendez du coup de ces assises-là?
Alors nous, on attend avant tout qu'on puisse retrouver un constat simple qui devrait être celui que l'université doit être financée de façon suffisante pour couvrir ses besoins de fonctionnement. Et donc, il y a plein de revendications qui peuvent s'échelonner sur ça. La première, c'est par exemple la grosse enveloppe budgétaire. Actuellement, il n'y a même plus de calcul de critères simples qui permettent de donner exactement un bon montant à chaque université. En fait, la méthode de calcul des critères, elle a été abandonnée il y a quelques années. Et donc, juste remettre des critères simples, lisibles, déterminés aussi par les conseils nationaux au siège des étudiants pour qu'on puisse délimiter des critères sur, par exemple, le nombre d'étudiants, les filières qui sont présentées, ça nous paraît essentiel. Ensuite, par rapport à tous les comptes, les appels à projets, la subvention, la fameuse subvention en charge de service public, le but, c'est aussi de retrouver une unique contractualisation qui puisse être débattue, co-construite avec des élus étudiants, les conseils d'administration aussi. Voilà, nous, on veut avant tout remettre une bonne méthode aussi sur la table, une méthode moins compétitive entre les universités et surtout un financement qui permettra simplement, et c'est un minimum, on pense, de financer à la hauteur suffisante des besoins en fonctionnement de chaque université en France.
Mais c'est quand même... Excuse-moi, mais c'est quand même assez incroyable de se rendre compte qu'ils ont abandonné un peu une sélection de critères spécifiques pour essayer de formaliser un peu tout ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement complexe. Comment est-ce que tu l'expliques du coup que l'État a un peu abandonné ces espèces de critères-là pour essayer de rendre plus lisible le fonctionnement du financement des universités?
Alors en fait, il existe toujours. En fait, il y avait une méthode de calcul qui a été un peu abandonnée et depuis quelques années, on a un réajustement de cette enveloppe. Par arbitrage, mais qui est plus aussi méthodique et scientifique qu'à une certaine époque. Donc le but, c'est justement de retrouver ça avec des critères qui doivent être revus.
D'accord. Et est-ce que vous, en tant que représentant un peu étudiant, vous dressez le même constat que les universités? Clairement, c'est qu'il y a des gros déficits économiques. Vous dressez le même constat que l'État se désengage du financement un peu de ces universités-là. Est-ce que les représentants des universités et les représentants étudiants sont un peu sur la même ligne par rapport à ce rapport de force? Ou alors est-ce qu'il y a des divergences sur la manière de gérer certaines choses?
Alors ça dépend vraiment des mouvements étudiants. On peut trouver vraiment des syndicats qui vont s'opposer plutôt aux universités qu'à l'État. Nous, notre choix, en tout cas dans le monde associatif, c'est comme les universités qui ont un problème de financement qui est structurel et national, et donc il y a eu par exemple un appel à la manifestation assez historique l'année dernière de France Université qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme. On s'est associé à eux et le but, ouais, c'est de pousser avec eux pour un financement juste. Et nous, en tant qu'association étudiante, un des gros leviers qu'on signale aussi, c'est que le recours au financement privé n'est pas une solution et qu'il a des conséquences graves qu'on essaie de limiter.
Et Vous serez du coup dans ces assises, vous allez du coup discuter de toutes ces questions-là. Comment est-ce que tu sens la position de l'État vis-à-vis de ça? Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle volonté d'ouverture au dialogue? Est-ce que tu sens qu'il y a déjà des leviers possibles sur lesquels argumenter? Ou est-ce que tu sens qu'il y a déjà un blocage qui commence à se mettre en place?
Je pense qu'on peut que saluer le fait qu'il y ait des dialogues et des échanges qui s'ouvrent entre différents actrices. Évidemment, le fait que, même sur la page internet, c'est la première chose qui est signalée, qu'il y a une trajectoire de redressement budgétaire, ça pose un frein d'emblée au fait qu'on puisse aboutir à une solution qui satisferait l'ensemble de nos besoins réels dans l'université. Et on ne parle pas de mesures irréalistes, on parle de choses qui sont juste nécessaires. Donc voilà, on peut que saluer que l'État et le ministère aient ouvert la voie à cet échange. Par contre, on doit faire attention à ce que ce soit pas qu'un échange et qu'on puisse y traduire des actions concrètes pour le bien de l'université.
Oui, et puis on connaît aussi les initiatives un peu de l'État pour essayer de lancer ces grandes discussions qui finalement, au final, ne rentrent assez peu en compte dans les décisions stratégiques de l'État pour faire ça. Est-ce que tu as un peu une petite crainte que finalement ça n'aboutisse pas forcément à grand-chose, ou est-ce que tu penses que ces décisions vont être un peu fructueuses?
Ça, c'est vraiment incertain. On a toujours peur parce que c'est déjà arrivé. Et tu l'as dit, qu'il y ait plein de conventions qui finalement n'aboutissent à aucune décision.
Dans la convention citoyenne pour le climat, par exemple, qui en est un exemple.
Voilà. Et donc, évidemment, nous, on le souhaite. En tout cas, nous, on y va et on s'y rendra parce que c'est toujours une bonne occasion de porter des positions pour les jeunes devant tous les actrices. Si on peut leur faire prendre des engagements forts, on le fera. Et on fera attention à ce qu'ils puissent y tenir.
D'accord. Et du coup, dans ces assises-là, de ce que j'ai pu lire, des différents communiqués, donc on sent qu'il y a vraiment deux pôles un peu qui s'affrontent sur les différentes visions qu'on a de l'université publique. Il y a un peu deux visions qui sont un peu en concurrence par rapport à ça, sans utiliser de mauvais jeu de mots, entre d'un côté ce que je sens comme étant un peu une volonté de libéralisation un peu de l'université publique, de professionnalisation des formations, avec des critères, comme tu le disais tout à l'heure, comment juger de l'efficacité d'une université, c'est à travers des critères d'emploi des étudiantes et des étudiants après, un peu un désengagement de la recherche. Et de l'autre côté, donc avec cette vision qu'on va dire un peu plus entrepreneuriale de l'université publique, et d'un autre côté une vision qui réaffirme le côté universaliste de l'université, l'importance de la recherche sans forcément générer de profits chiffrables directement derrière. Est-ce que tu souscris à cette opposition-là ? Est-ce que du coup tu sens que cette opposition-là, elle est réelle et elle existe ?
Elle existe vraiment. On pourrait même pousser un peu plus loin la première vision entrepreneuriale en rappelant qu'il y a une irruption de plus en plus flagrante des partenaires privés et des financements privés dans les universités, au point où il y a certains doctorats dans lesquels les entreprises qui financent par exemple la chaire de doctorat ont une place dans le jury de sélection des doctorants. Donc voilà, cette vision entrepreneuriale, elle va à un point où par exemple les entreprises qui posent des enjeux de société comme par exemple Total peuvent aujourd'hui agir concrètement sur des choix et sur des sélections académiques pour des doctorants. Donc ouais, il y a d'un côté vraiment ce gros bloc et des fois ces choix contraints aussi par l'université hein, qui fassent un sous-financement massif de l'enseignement supérieur par l'État et obligé d'essayer de se tourner vers des acteurs privés plus ou moins éthiques aussi selon les critères que délimitent les universités. Et de l'autre côté, ouais, il y a le monde aussi que nous on veut défendre en tant qu'organisation fondative étudiante sur une université qui est avant tout un lieu d'émancipation. D'enseignement, de formation, un passage dans lequel on doit pouvoir s'épanouir, s'émanciper démocratiquement et intellectuellement. Et ça donc, c'est pas
super. Ouais, c'est ça, entre les visions peut-être un peu plus managériales et les visions beaucoup plus d'un idéal démocratique, du coup, c'est ces deux visions-là qui ont peut-être se clasher, on va dire, pendant ces assises-là, avec deux visions totalement, parfois différentes, de l'enseignement public. C'est ça que tu essayes un peu de nous dire, quoi.
Totalement, parce que ça s'incarnera sur un budget. Finalement, tout budget a une orientation politique et la construction d'un budget reflète d'un acte d'intention et de la direction qu'on veut donner. Donc forcément, si on aboutit à des décisions qui iront vers des indicateurs de performance, on rentrera plutôt dans la logique entrepreneuriale, là où si on obtient à nouveau une contractualisation pour le financement total d'université, on arrive dans une logique qui est celle d'une université comme elle devrait l'être.
Ben c'est un débat essentiel qui se pose en tout cas aujourd'hui. Et pour finir, du coup, une dernière petite question, il nous reste une petite minute. Sur votre actualité, du coup, à l'AGEP, donc l'Association Générale des Étudiants de Paris, donc vous allez publier bientôt un guide des aides sociales pour les étudiantes et les étudiants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Tout à fait. Ce vendredi 16 janvier, à 19h, on sortit un guide des aides sociales qui regroupera plus d'une cinquantaine d'aides à disposition de l'ensemble des étudiants de Paris sur des questions de logement, d'alimentation, de transport, de santé. Le but, c'est de rendre beaucoup plus lisible l'ensemble des dispositifs qui existent à Paris. Et donc, ce guide sera évidemment gratuit, disponible d'abord en ligne, puis on espère pouvoir l'imprimer pour le mettre à disposition au plus grand nombre. Et il y aura aussi plein de contacts dans ce guide pour permettre à tout étudiant de pouvoir contacter ses élus, les administrations si besoin.
Eh ben, merci beaucoup Simon Elien. Rendez-vous pour tous les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent sur le site du coup de l'AGEP pour découvrir un peu ce guide des aides sociales. Merci énormément d'avoir été avec nous et nous avoir éclairé sur ce sujet.
Merci beaucoup.
Eh ben, merci Simon Elien. Merci donc Vladimir. Et donc maintenant c'est le flash info de ce par Solène.
Le flash info de la matinale de 19h.
Solène Frémont à la une ce jeudi 15 janvier en France. À Paris, un homme est décédé dans le 20e arrondissement dans la nuit de mercredi à jeudi après son interpellation pour consommation de cannabis. L'arrestation aurait impliqué une immobilisation au sol et l'usage d'un taser en mode contact. On ignore pour l'instant la cause exacte du décès. Une enquête a été ouverte et l'IGPN saisie. Ce drame relance le débat sur les violences policières en France. Le gouvernement reste en place après le rejet de deux motions de censure à l'Assemblée nationale. Ces motions visaient le budget 2026, très contesté par l'opposition. Elles ont été rejetées, mais le climat politique reste tendu. Les débats continuent et l'exécutif doit trouver rapidement une issue pour sortir de l'impasse. Le même budget provoque aussi des tensions sociales. Le mouvement des médecins libéraux se renforce avec grève et fermeture de cabinets, entraînant des milliers de consultations annulées. Sur le plan international, Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence à Paris pour faire le point sur les tensions autour de l'Iran et les enjeux stratégiques en Arctique. Dans le même temps, Donald Trump, soupçonné de vouloir intervenir en Iran, assure que les tueries ont pris fin. Malgré cette déclaration, le président américain continue d'entretenir le flou sur une éventuelle intervention militaire dans le pays. La situation reste surveillée de très près. Côté sécurité intérieure, 10 militants anti-migrants britanniques sont interdits de séjour en France. Soupçonnés d'actions hostiles contre des migrants, ils ne pourront plus entrer sur le territoire. Les autorités estiment que leur présence pourrait provoquer des troubles à l'ordre public. Pour finir, le Maroc et le Sénégal se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu le 18 janvier à 20h. Si les Lions de l'Atlas l'emportent, ce serait la première victoire du Maroc sur son sol, après leur victoire en 1976. Les supporters marocains espèrent un triomphe historique devant leur public. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du jour. Fabien, je te laisse la parole.
Eh bien, merci Solène pour ce flash info. Et maintenant, on écoute Tyrone Wells, Time of Our Lives.
This is where the chapter ends. A new one now begins. Time has come for letting go. The hardest part is when you know all of these years when we were here are ending. But I'll always remember we have had the time of our lives. And now the pages turn, the stories we will write. We have had the time of our lives, and I will not forget the faces left behind. It's hard to walk away from the best of days. But if it has to end, I'm glad you have been my friend in the time of our lives. Where the water meets the land, there is shifting in the sand. Like the tide that ebbs and flows, memories will come and go. All of these years when we were here are ending, but I'll always remember we have had the time of our lives. And now the pages turn, the stories we will write. We have had the time of our lives, and I will not forget the faces left behind. It's hard to walk away from the best of days, but if it has to end, I'm glad you have been my friend in the time of our lives. We say goodbye, we hold on tight to these memories that never die. We say goodbye, we hold on tight to these memories that never die. We have had the time of our lives, and now the pages turned, the stories we will write. We have had the time of our lives, and I will not forget the faces left behind. It's hard to walk away from the best of days, but if it has to end, I'm glad you have been my friend in the time of our lives. I'm glad you have been my friend in the time of our lives.
C'était Tyrone Wells, Times of Our Lives. Vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et je suis avec Anaïs dans les studios qui va nous faire sa chronique actu.
Oui, bonsoir Fabien. Donc il s'agit donc pour cette chronique actu, il s'agit d'une dame qui accompagne les femmes victimes de violences, donc nommée Jenna Diarra, qui a créé un support innovant pour informer le plus grand nombre. En effet, à 46 ans, Jenna Diarra devient le symbole des luttes de victimes de violences faites aux femmes en créant un magazine destiné à guider les femmes qui en ont besoin. Elle indique à ses collègues de l'association Les Péri-L des instructions en prévision de l'arrivée d'une mère et de ses enfants. La maison en question n'est autre qu'un refuge aux femmes victimes de violences. L'association prévoit trois jours d'hébergement selon la situation de chacune. Pour cette femme, son séjour a duré une semaine avant de rejoindre un autre logement. Dans la salle commune du premier étage, Jenna Diarra affirme qu'elle n'aurait rien accompli seule sur la façon d'informer les victimes. À 46 ans, la présidente de cette association a lancé son premier bar à ongles et occupe également la fonction d'adjointe au maire de Montfermeil, en charge des politiques et de prévention des droits des femmes. Elle se questionne sur la façon d'informer. Les habitants sur les VIF, sur les VFF, autrement dit les violences faites aux femmes, et comment pénétrer dans chaque foyer. La solution, la voici, créer un magazine inspiré de la presse féminine, imprimé en 12 500 exemplaires, et enfin distribué chaque 8 mars dans les boîtes aux lettres de la ville. Ainsi, ce magazine recèle des ressources destinées aux victimes et à leur entourage qui ne savent comment agir. Les membres de l'association collaborent avec les hôpitaux, la mairie, le département, le commissariat, les autres associations, etc. Une mannequin avec un œil au beurre noir apparaît sur la couverture du premier numéro publié en 2021. Afin que le magazine puisse rester dans les foyers et être lu, la couverture doit tout de même rester discrète. Actuellement, Jenna Diarra prépare la 6e édition qui se tiendra le 8 mars 2026 avec une thématique traitée pour chaque numéro. L'année précédente, il s'agissait de la notion de la notion de limite et le prochain sera la manipulation. Objectif de ces numéros, diffuser les messages et relayer les numéros d'urgence. Pour l'intervenante sociale du commissariat, le constat est sans appel. La hausse des signalements est considérable. Si Jenna Diarra s'est décidée à agir en créant une association avec plusieurs habitants de sa résidence, c'est dans l'objectif d'éviter que certains drames se reproduisent et empêcher tout féminicide avec la constitution d'un réseau de sentinelles. Chaque référente est présente dans chaque bâtiment et alerte au moindre bruit. Elle se lance dans cette bataille lorsque Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, met en jeu son 4e mandat en 2020. Elle se retrouve donc à être élue et en charge des politiques des préventions de droits des femmes. À présent, ce magazine est distribué à Meudon, Chevigny-Saint-Sauveur, Épinay-sur-Seine et 10 autres villes ou agglomérations, ainsi que par la Fédération du commerce de la distribution qui se disent intéressés. Selon Eugénie Pontier, adjointe au maire d'Épinay-sur-Seine, en charge de l'écologie, et interpellée par le témoignage de Jenna Diarra, ce magazine est une bouée de sauvetage livrée à domicile. Après le magazine Violence, son souhait serait que son association voit le jour dans d'autres villes. Autre souhait, que les hommes et les femmes le reproduisent sur leur territoire.
Merci Anaïs pour cette chronique très intéressante. Et maintenant, c'est la première de C'est quoi son taf ?
Mais dis-moi, c'est quoi ton taf ?
Deux jeudis par semaine dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui, dans C'est quoi ton taf, nous recevons Najwa Ferréol, qui est coordinatrice d'intimité dans le cinéma, et c'est Alice qui va l'interviewer.
Bonsoir Nadia. Najwa, pardon, excusez-moi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Alors peut-être avant de parler concrètement de ce qu'est ce métier de la coordination d'intimité, est-ce que vous pouvez nous teaser un peu, nous dire comment est-ce que vous êtes arrivée à être coordinatrice d'intimité ?
Alors le tease, il est très simple, j'étais comédienne, je suis passée derrière la caméra, et j'ai fait de la mise en scène. Et le hasard a fait qu'on m'a demandé d'intervenir sur des scènes dites compliquées. Et ben, je l'ai très bien fait, visiblement, puisque tout le monde m'a conseillé de me diriger vers cette profession qui venait à peine d'apparaître en France. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est une activité quasi à temps plein quand j'ai du travail, évidemment.
Alors justement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est être coordinatrice d'intimité aujourd'hui ?
Pour faire simple, et je pense que c'est la meilleure définition, c'est quasiment le même travail qu'un coordinateur de cascade, sachant que voilà, on est là pour mettre un cadre bienveillant. Pour éviter les blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et moi, j'appelle donc ces cascades-là des cascades émotionnelles, tout simplement.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple type d'une situation auquel vous avez été confrontée dans votre carrière ?
Alors, généralement, comment ça se passe ? On m'appelle surtout en France, en tout cas, pour des scènes de sexe, de nudité ou de baiser. Donc moi, je suis là, j'interviens en amont, en discutant avec les comédiens, comédiennes, la mise en scène et aussi la production. On met en place un cadre bienveillant, respectueux, et tout est basé sur le consentement. Donc c'est véritablement de la parole, je ne suis pas près des corps, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je suis là pour mettre en place ce cadre qui est d'écouter les limites de chacun. Ça peut être aussi les limites de la production. On n'est pas que avec les comédiens et comédiennes. Quand on est sur un plateau, on est avec tout le monde. Et on est une personne tierce. On est dans la médiation. On écoute les limites et on essaye, on fait tant que se peut, qu'elles soient respectées lors du tournage. Après, tout peut évoluer. C'est-à-dire que souvent, on pense que c'est un métier très woke et un métier où on est là, on est vraiment les policières ou la brigade des mœurs sur les plateaux, alors que pas du tout. En fait, on est vraiment là pour accompagner. Et quand il y a des changements, eh bien, on en discute. C'est véritablement de la médiation.
Est-ce que désormais, ce sont les réalisateurs, les producteurs qui viennent vers vous ? Est-ce que c'est vous qui proposez vos services, peut-être, sur certains plateaux de tournage ?
Alors, c'est toujours la production ou les réals qui viennent vers moi. Moi, bien sûr, j'envoie des CV, hein, comme tout le monde. J'ai une page sur LinkedIn. Je fais partie d'une fédération. Effectivement, on sait, on peut me trouver, mais voilà, c'est surtout eux. La démarche vient d'abord d'eux, souvent à l'initiative du réal ou de la réale. Maintenant, de plus en plus, les comédiens et comédiennes peuvent aussi le demander parce que la production pose la question par rapport à certaines scènes, si on veut être accompagné. Et là, effectivement, on est quelques-unes en France et on peut nous appeler pour participer.
Alors, vous nous avez expliqué que vous intervenez pour des scènes dites compliquées, donc ça va surtout être intime, si on parle de nudité, de sexualité. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut définir cette scène intime ?
Alors ça se fait durant la préparation. C'est souvent la production et réal qui décident qu'effectivement, c'est une scène qui est compliquée. Parce que, voilà, on part du principe que c'est pas évident de se mettre nu sur un plateau. C'est pas évident même d'embrasser quelqu'un, surtout quand on est très jeune comédien et qu'on n'a peut-être jamais embrassé dans sa vie. La violence sexuelle que l'on doit simuler. Et donc, comment ça se passe ? On en discute. Moi, on me fournit les scènes, parfois le script entier, parfois juste les scènes. Et à partir de là, on met en place une chorégraphie. Et puis, bon, bien sûr, de la discussion, c'est-à-dire que les réals ont des attentes, ont un rêve, en fait, quelque part. Ils veulent montrer quelque chose, et puis peut-être que comédiens et comédiennes ne veulent pas montrer ces choses-là. Donc après, c'est de la chorégraphie, c'est l'illusion du cinéma, c'est la lumière, c'est des tactiques, des trucs. Et puis, c'est surtout des comédiens et comédiennes qui jouent. Et je pense que souvent, bah, parfois, le jeu, les regards, les mains peuvent raconter autant qu'un corps nu affiché.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment la France se positionne sur ce métier, parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu inconnu du grand public. On pense souvent peut-être aux coordinateurs plus pour les mineurs, les enfants, mais est-ce que la France est encore en retard? Il y a eu, je voulais aussi évoquer la vague MeToo forcément qui a, j'imagine, changé votre métier, et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi?
Alors, la France commence à vraiment rattraper les pays anglo-saxons qui sont quand même les précurseurs dans ce métier-là. On commence à véritablement à être appelé beaucoup plus souvent et à être écouté, à participer à la mise en scène. Donc il faut toujours bien comprendre que s'il y a des réticences aujourd'hui, c'est plus des réticences d'ego. À savoir que souvent, il y a des personnes sur les plateaux à la mise en scène qui sont persuadées qu'on va prendre leur créativité, qu'on va imposer la nôtre ou qu'on va prendre le lead sur leur mise en scène, alors que nous, on est là juste pour accompagner. Mmh. Voilà, on est là pour que la parole soit horizontale. Voilà.
Et est-ce qu'on peut vous considérer comme le bras droit de la Réal sur certaines de ces scènes, justement, si vous dites que vous êtes là pour accompagner? Est-ce que vous avez un droit de regard véritablement, ou c'est l'accompagnement, il se fait surtout en amont, peut-être en tête-à-tête avec les comédiens, les comédiennes, et enfin voilà. Est-ce que...
Surtout en amont. Après, il y a des Réals qui sont très très ouverts et qui attendent beaucoup de ce travail en commun, qui est un peu un travail de labo. Mais sinon, parfois, il m'est arrivé aussi d'être un petit peu sur le côté, et d'avoir fait mon travail en amont, et puis sur le plateau, d'être un petit peu ignoré. Mais ça fait partie du jeu aujourd'hui. Et puis, voilà, moi, je tiens vraiment à le préciser, je ne suis pas là pour prendre la place de quelqu'un. Je suis une personne tierce sur un plateau. Mon travail, c'est un univers où il y a énormément de hiérarchie, où il y a énormément de dynamique de pouvoir, c'est de permettre à la parole d'être libre et horizontale, comme je l'ai dit.
Comment est-ce que les comédiens et les comédiennes vous accueillent? Alors, des fois, vous disiez que c'était à leur propre initiative, mais quand c'est encore celle du réalisateur ou de la réalisatrice, est-ce qu'il y en a qui sont réticents? Enfin, comment est-ce que vous vous adaptez, vous, aussi à des comédiens qui sont peut-être... ils ont l'ego, ils se disent « bah non, moi, j'ai pas besoin de ça ». Comment est-ce
oui,
que vous faites?
Ça arrive encore, ça arrive, bien sûr. Alors, moi, de toute façon, c'est très simple. Je me présente, j'explique comment va se passer mon travail, quelles sont mes attentes, mais je ne suis pas là pour forcer. Je suis vraiment dans la discrétion et dans l'écoute. J'entends qu'on puisse ne pas avoir besoin de moi, mais à partir du moment où il y a une seule personne sur le plateau qui a besoin de moi, je me dois d'être présente. Voilà. Et puis, à partir du moment où on m'a fait venir aussi, je suis présente. Donc, ce que je dis, c'est « Ok, tu n'as pas besoin de moi. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si à un moment, il y a quelque chose qui surgit, une gêne, une limite que tu ne connaissais pas, eh bien sache que je suis là pour t'écouter et pour qu'on travaille ensemble et qu'on avance ensemble. »
J'ai encore une dernière question à vous poser avant la fin. Vous qui étiez comédienne, donc vous étiez déjà dans le système, si je puis dire, avant d'être coordinatrice d'intimité. Mais tout de même, est-ce que vous avez suivi une formation particulière? Est-ce qu'il y en a en France? Est-ce que vous étiez ailleurs? Vous parliez des pays anglo-saxons qui étaient plus avancés.
Voilà. Alors moi, j'ai fait ma formation aux États-Unis, en fait, avec un organisme aux États-Unis. Mais depuis maintenant quelques mois, il y a une certification qui existe en France. Et à côté de ça, il y a des initiations et je suis formatrice dans ces initiations.
Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, merci Najwa Ferréol, merci Alice. On découvrait le métier de coordinatrice d'intimité dans le cinéma. Et maintenant, on écoute Adèle Castillon, Vidéoclub Impala.
On voyait balader, danser tout l'été, monter en Impala.
Les gens sont tristes, j'en ris, j'oublie.
que tu existes. C'est fini sur la piste, je twiste. Dans la nuit, il y a du monde, je me faufile. Avec style, me regarde dans le miroir, je me noie dans mes yeux. Rigoler des déboires, j'en referai des envieux. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. J'ai rêvé tout ce temps ce soir, je porte bien ma jupe noire dans une armoire, celle bien cachée, celle qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Regardez-moi et poussez-vous, je veux danser, plus rien à foutre. Non, je n'ai plus envie de toi, tu les veux toutes. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là.
C'était Adèle Castillon, Vidéoclub Impala.
La matinale de 19h.
Et la matinale se termine doucement, mais il reste encore une chronique, celle de Gauthier, qui vient nous faire sa 58 743e chronique, non, c'est ça ?
Bonsoir, presque encore une fois. Cette semaine, c'est ma 74e chronique sur ces ondes et c'est ma première chronique de l'année. Alors évidemment, bonne année, bonne santé, que vos vœux soient exaucés, que vos proches soient heureux, qu'il n'ait aucun souci financier. Ou tous ces trucs de woke là, on peut arrêter de faire semblant, franchement. Qui y croit ? 2026, c'est foutu déjà. Je vous assure que 2025, j'ai essayé d'y croire. J'ai même souri une fois tous les deux jours dans le cadre de mon happiness training que j'ai suivi à la Happiness School of Saint-Quentin en Yvelines. Mais je crois que 2026, bah, c'est foutu, quoi. Pour moi, 2026, je vous préviens, c'est l'année du reset. Je deviens anti-woke, anti-joie de vivre, anti-progressisme. Je refuse de voir ne serait-ce qu'un seul sourire sur la bouche d'un seul enfant. Je le giflerai, si besoin. Aussi mignon soit-il, je vais mener une campagne pour supprimer le bonheur dans les salles de classe de nos chères petites têtes blondes. C'est pour ça que je vous annonce d'ailleurs ma candidature à la mairie de Paris pour les prochaines élections en mars. Avec moi, je remettrai les voitures dans tout Paris. Ah pardon, ça c'était juste le programme de Rachida Dati. Je mettrai plus de police avec des gros pistolets et tout pour dissuader des voleurs. Ah ça c'est, non, c'est le programme de Sarah Knafo et Rachida Dati aussi. J'interdirai aux sans-abri de pouvoir se loger. Je les virerai même de la ville. Ah, bah ça aussi, c'est un programme des deux. Bon, je vous propose un programme de rupture, un compromis entre la droite et la droite. On met les sans-abri dans des voitures qu'on remettra dans tout Paris. Et voilà, le problème sera réglé. Plus de problèmes de logement, plus de transports en commun. Ah oui, parce que je supprime le métro aussi. Hein. Et Gauthier pourra pleurer tant qu'il voudra, mais la baffe du Thiégo n'atteindra pas le Blanc-Ménil. Plus de services publics. Moi, maire d'ailleurs, je me supprimerai moi-même car je refuse de toucher de l'argent public. Et c'est pas mes 20 années en tant que député de la 5e circonscription du Loir-et-Cher qui iront en contradiction avec mes propos. Moi, j'ai donné, j'ai vraiment tout fait. Mais c'est trop dur, c'est devenu trop d'efforts d'être de gauche. Il faut réussir à ne pas s'énerver dès qu'on voit une femme sur une affiche de pub, ou une personne noire, ou homosexuelle, ou transgenre, ou voilée. Faut se retenir vraiment très fort de pas aller chercher les réseaux sociaux de ces personnes, leur nom, leur prénom, puis prendre une photo de l'affiche, la poster sur internet en donnant au passage son adresse publiquement après une recherche méticuleuse qui impliquait de faire un compte sur LinkedIn et sur société.com. Et vous imaginez comment c'est dur de se retenir de faire tout ça ? J'admire les gens de gauche qui, quand ils voient une de ces affiches, ne font rien, ne pensent rien. Ne serre même pas un tout petit peu l'une de leurs phalanges. Enfin, j'aimerais vraiment être de gauche, je vous jure, mais c'est une grandeur d'âme qu'il m'est incapable d'atteindre. Des qualités morales que je n'ai pas. C'est tellement plus simple de passer toutes mes journées sur mon canapé à lire chaque tweet des politiques que j'aime pas pour aller les insulter dès la première seconde. Franchement, j'ai une tranquillité d'esprit, mais vous avez pas idée, vous devriez essayer. Hein. En tout cas, Gauthier pour Paris en 2026, c'est donc le début officiel de ma campagne. J'espère que vous allez voter pour moi, et oui, évidemment que je supprimerai Radio Campus Paris. Ce sera... une de mes premières mesures, et ce, rétroactivement, évidemment, quoi que ça veuille dire. Salut !
Eh bien, merci Gauthier pour cette chronique. Gauthier, oui, exactement. Excusez-moi. Gauthier pour cette chronique décalée. Et la matinale se termine doucement. Et donc, merci donc à tous. On se retrouve donc lundi pour une nouvelle matinale. Merci donc à Simon Elienne et à Vladimir. Merci à Solène pour le Flash Info. Merci à Anaïs pour sa chronique actu. Merci à Alice et Najwa Ferréol pour la seconde donc de C'est quoi ton taf. Et merci à Gauthier pour sa chronique. On se retrouve donc lundi pour une nouvelle matinale sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM. Et merci évidemment, bien entendu, j'allais les oublier, aux Déjane qui sont coordinatrices antennes. Moi, on s'en fout. On s'en fout de moi. Allez, bonne soirée à tous et à lundi pour une nouvelle matinale.